Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous. Hier, dans notre première émission, nous avons entendu l'univers musical du tout jeune Lenny, compris pourquoi Sam, son père, a cherché à le détourner de la musique, et nous avons compati pour l'adolescent qui n'a d'autre passion que le piano.
I didn't even know as a child, I think till I was 14.
Jusqu'à 14 ans, je ne savais même pas qu'il existait des concerts auxquels on pouvait assister, qu'il existait une vie musicale, une communauté musicale, des amateurs de musique qui prenaient ça très au sérieux. On ne parlait jamais de musique dans ma famille.
Pourtant, Sam met son fils face à son destin en mai 1932. Il l'invite à un concert au Symphonic Hall de Boston pour la seule raison que l'événement est organisé par le groupe musical de la synagogue au profit de la Palestine. Au programme, le Boléro de Ravel. Or, c'est un coup de foudre pour les Bernstein, père et fils. Sam dit que cette musique lui fait penser au chant hassidique et Lenny dit avoir découvert la Bible de l'orchestration. Quand il le dirigera avec le New York Philharmonic, il nous donnera l'impression que le Boléro arrive par vagues de souvenirs lointains. Là, il écrit à un ami. J'ai acheté le Boléro, super. Bien sûr, papa m'a donné les 80 scènes tellement il avait été enthousiasmé par la musique. Donc la semaine passée n'a été que Boléro. Ma mère m'a dit que je lui boléorisais la tête. Moi, je suis au paradis.
Thank you.
Petit détail amusant, il précise en post-scriptum « J'ai commencé à apprendre le jazz à ma mère ». À Vienne, dans les années 80, alors qu'il vient de passer une nuit blanche, il doit participer à une très sérieuse interview. Encore tout enfiévré de ses émotions nocturnes et un peu pâteux, il confie « Le divertimento, je l'ai écrit pour Boston. C'est une évocation nostalgique de ma jeunesse. Cette musique est liée à ma première émotion musicale. Je me rappelle cet enthousiasme quand j'avais 14 ans au Symphonic Hall de Boston. » Ce concert a donné de la lumière à toute ma musique. Enfant, Lenny avait étudié avec un professeur insensible à son talent. Il a bien dû le sentir pour écrire lui-même non pas à un professeur renommé hors de ses moyens, mais à son assistante, Hélène Coates. Et comme c'est encore très onéreux, il est précautionneux. Le 15 octobre 32, il lui écrit « Après avoir évoqué le sujet à la maison, j'ai décidé d'étudier avec vous et de prendre une leçon toutes les deux semaines. » Voulez-vous bien, s'il vous plaît, me faire savoir quand cela vous conviendrait de me donner ma première leçon ? Avec Hélène Coates, c'est une relation de 50 ans qui commence. Elle ne condamne pas l'éclectisme de ses goûts, bien au contraire. Elle est surtout à l'écoute des tumultes de l'adolescent. La première sonate, écrite par Lenny, nous indique assez clairement sa manière exubérante de jouer. Lenny raconte « Hélène se met à mes côtés au clavier et m'explique comment ne pas plaquer des bangs, comment user de la pédale discrètement et comment discipliner la folie et la rage de mes doigts. » Hélène Coates est si dévouée à son élève qu'une relation filiale se tisse et des années plus tard, Lenny demandera à Hélène d'être sa secrétaire particulière. Elle le restera jusqu'à la fin de ses jours. En 48, il lui dédie une courte et tendre pièce pour piano, comme il en écrit parfois, en hommage à ceux qu'il aime, sous le nom d'Anniversaries. Thank you. Le père de Lenny, Sam, a voulu renouveler l'expérience après le concert Boléro. Il a pris des places pour aller écouter cette fois un concert de Rachmaninov. Ce qui l'a le plus épaté, c'est que des gens puissent payer pour aller écouter de la musique. Il ne vient pourtant pas au tout premier concert scolaire de Lenny. Hélène, consciente du désarroi du jeune adolescent, écrit à Sam. La réponse est sans appel. Il veut son fils à la direction de la Bernstein Company. Tout au plus, admettrait-il qu'il devienne rabbin. Mais musicien, non, c'est toujours hors de question. On peut imaginer les tourments du jeune homme. Il écrit à un ami. En fait, il n'y a pas un moment où je ne préfère être au piano à toute autre activité ou délassement. Il est inexplicablement clair que malgré la dissuasion familiale, je suis de plus en plus rempli du désir d'une vie musicale.
Thank you.
Lenny compose son premier opus cette année 1935. Une œuvre de 4 minutes. Psaume 148 pour voix et piano. De quoi émouvoir son père. Et puis il négocie. Il fait ainsi miroiter une possible alternative à Sam, une carrière de professeur de musique. Grâce à ses excellents résultats scolaires, il s'inscrit au département de musique de l'université d'Harvard, sachant bien qu'il s'agit d'un apprentissage plus intellectuel que pratique. Et finalement Sam, le migrant d'Ukraine, l'ancien nettoyeur de poissons au marché de New York, consent à compléter la bourse de son brillant rejeton. Lenny va enfin rencontrer la crème des professeurs de musique, qui bien sûr sont tous d'origine européenne. Il est fasciné par les cours d'analyse esthétique avec Edward Burlingame Hill et Arthur Tinman Merritt. Il témoignera toujours sa gratitude à ses professeurs. Il a suivi notamment les cours d'harmonie et fugue du compositeur Walter Piston, un élève de Nadia Boulanger.
Je voudrais maintenant rendre un hommage particulier à un des plus importants compositeurs de notre pays, Walter Piston, pour célébrer son 70e anniversaire. Tous ceux qui ont eu la chance d'étudier avec lui à l'université d'Harvard se souviendront toujours de la profonde compréhension de la musique qu'il nous communiquait et des fous rires qui émaillaient les cours. C'était un des esprits les plus spirituels que j'ai jamais rencontrés. Et en l'honneur de son anniversaire, on va jouer sa pièce la plus populaire, sa suite pour un ballet, The Incredible Flutist. Je ne vais pas vous saouler avec le sujet, sauf pour vous dire que c'est l'histoire d'un cirque qui arrive dans une petite ville endormie, et dans une scène, un joueur de flûte réveille la ville. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que tout le monde se met à danser des tangos, des fandangos, et pas mal de valses espagnoles. Et peu importe pourquoi, ce qui compte, c'est la musique. Écoutez The Incredible Flutist, que nous jouons pour l'anniversaire d'un compositeur merveilleux, un homme adorable et un professeur inspirant.
Lenny a certes fait figure d'intellectuel dans le monde musical, mais à juste titre. Il insistera toujours sur la nécessité de faire ses humanités, soulignant à quel point une culture générale est nécessaire à toute activité de haut niveau. La littérature anglaise, et particulièrement la poésie, lui deviennent essentielles. Autre passion, apprendre des langues, français, allemand et italien. Faut-il s'étonner qu'il cite si aisément Schiller, Baudelaire ou Voltaire ? Il étudie Socrate et Platon, remerciant au passage le sévère Sam. Les études talmudiques de mon père m'ont prédisposé à l'étude philosophique. Étude qu'il poursuivra toute sa vie. La preuve, en 1954, il écrit Sérénade d'après le banquet de Platon pour violon solo, orchestre à cordes, harpe et percussions. Thank you.
I would really say that my father loved words every bit.
Jamie, la fille de Leonard Bernstein.
As much as he loved notes. He was completely enchanted with literature.
Je peux vous dire que mon père aimait autant les notes que les mots. Il était enchanté par la littérature.
He was just immersed in words and word play.
Il aimait les mots pour leur abstraction même. Il aimait les mots croisés, il faisait des jeux de mots. Il s'abreuvait de jeux de mots. Il adorait Lewis Carroll, Shakespeare. Chez nous, dans notre enfance, la musique et les mots avaient une importance égale. Et dans les compositions de mon père, vous pouvez chercher longtemps une composition qui ne soit pas nourrie par un texte.
La formation intellectuelle de Harvard laissera des traces à tout jamais chez Lini. Une discipline de fer au travail, le goût de l'éloquence, la capacité à écrire et un léger accent snob très particulier à cette université, heureusement compensé par son indocilité et ses élans d'enthousiasme désordonnés. Mais ce que cette prestigieuse université lui a appris d'essentiel, c'est tout simplement à savoir parler de la musique. Le jeune Lini a la beauté du diable et a l'énergie magnétique, est capable de passer ses nuits clope au bec au piano pour distraire ses amis fêtards d'Harvard. Il n'a aucun mal à s'insérer dans des projets de théâtre et de chœur et de ciné-club, mais c'est aussi à Harvard qu'il va pour la première fois devoir affronter une règle antisémite, les quotas raciaux. Seuls 10% des juifs sont admis dans le distingué club artistique. Il n'y est donc pas admis. Profondément blessé, il n'en a jamais parlé, même plus tard.
Quand je repense à mon père étudiant à Harvard, j'imagine sans mal l'impression qu'il a pu faire.
Il était vraiment séduisant, il avait cette énergie folle et cette crinière noire et brillante qui lui tombait sur les yeux quand il jouait au piano. Je pense que tout le monde craquait pour lui. Évidemment, je n'étais pas là et je peux simplement imaginer à quoi il ressemblait, mais je suis pratiquement sûre qu'il était l'âme de toutes les fêtes. Je me souviens que bien plus tard, il restait debout plus longtemps que tout le monde et il devait déjà être comme ça à l'université.
Son professeur d'esthétique lui donne à critiquer une œuvre pour la revue étudiante. Il s'agit des variations de Aaron Copland. Un nouveau monde musical s'ouvre à moi avec cette œuvre, écrit-il. Extrême, prophétique, faisant écho, farouchement dissonant, intoxicant. Aaron Copland a été un gosse de Brooklyn d'origine lituanienne.
Il a étudié le piano avec des professeurs de tradition allemande, ami de Gide, élève de Nadia Boulanger. Il possède toutes les qualités du compositeur américain selon Lenny. Rythme de jazz, optimisme à tout crin, grands espaces, simplicité, sentimentalité et un mélange d'emprunts au monde entier. Un jour, une de ses amies dégote des places à un spectacle de danse à New York. À quelques places, au même rang, son ami lui présente Copland.
I had an image of Aaron as a kind of great patriarch with a beard, looking something like Walt Whitman.
L'image que j'avais de Aaron était celle d'un patriarche de l'Ancien Testament, un vieil homme au verbe enflammé. Parce qu'il y avait tout ça dans sa musique. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque je l'ai rencontré par hasard lors des débuts en récital d'Anna Sokolov. À ma droite était assis un homme de 37 ans, mince, charmant, souriant, tout en dents, heureux, affable. Et lorsqu'il m'a dit « Je suis Aaron Copland, enchanté », je me suis trouvé mal.
Après le récital, Copland, dont c'est l'anniversaire, organise une fête chez lui, un loft, 63e rue. Il invite Lenny, qui lui avoue tant aimer jouer ses variations. Copland, jouez-les, Lenny. Ah non, à chaque fois que je les joue à une fête, tout le monde s'en va. Ah non, pas à celle-ci, lui a répondu le compositeur. Il va devenir un habitué des soirées chez Copland. Lenny, le petit provincial d'à peine 20 ans, se retrouve ébahi au milieu d'écrivains et de musiciens. Gertrude Stein trône dans un fauteuil. Paul Bowles est allongé sur un sofa près du compositeur Virgil Thomson. Il bavarde avec un metteur en scène de théâtre, futur cinéaste Orson Welles.
Summer with Lenny, Emmanuel Franc, France Musique.
Harvard est à la fois un monde cosmopolite et bouillonnant de possibilités d'apprendre. Il y a des lectures et des conférences ouvertes à tous. C'est ainsi que l'étudiant Bernstein a l'occasion de croiser le grand Dimitri Mitropoulos, invité par les étudiants grecs en janvier 1937. La rencontre entre le chef de 41 ans et l'apprenti musicien de 19 ans est fondatrice. D'origine grecque, il a été l'assistant d'Erich Kleiber, a dirigé divers orchestres grecs et a immigré aux USA où il a pris la direction de l'orchestre de Minneapolis. Mitropoulos est devenu célèbre de façon spectaculaire. Il a remplacé au pied levé le pianiste Egon Pietri à l'orchestre de Berlin tout en le dirigeant. Un coup de théâtre. Jamais personne ne s'était risqué ainsi en même temps à la baguette et au clavier sur une partition aussi virtuose que le concerto numéro 3 de Prokofiev. Lors de la réception à Harvard, Lenny est présenté au maestro. Le gamin subjugué n'a de cesse de le séduire et pour cela se met au piano. Mitropoulos est émerveillé et propose au jeune homme d'assister à ses répétitions avec l'orchestre de Boston. Lenny est en plein examen, qu'à cela ne tienne. Il lâche l'université et ne quitte plus le Symphonic Hall.
So, gentlemen, let us take the last movement, please. First movement. Ready? Not enough, enough what to present. The devil here. Mephistopheles. We have to make the staccatos much more light, jumpy, nervous. Please, let's try once more again.
Dans son essai, The Occult, Lenny raconte la répétition avec Mitropoulos, qu'il appelle pour l'occasion Eros Mavro, et lui-même Karl. Quand il est arrivé sur scène, pile à 10h, il y eut beaucoup d'applaudissements de l'orchestre. La musique était glorieuse. Mavro était constamment possédé. Quand il a voulu ordonner un soudain diminuendo à l'orchestre, il cassa deux chaises en tombant, tellement il y mettait de la force avec son corps tout raide. La première fois, il était tombé droit comme un pic à travers la chaise. Le directeur de scène a couru à son secours. La deuxième fois, l'orchestre a gloussé. Mavro s'est relevé tout seul et il a continué à diriger sans s'arrêter un instant. Karl a commencé à concevoir un grand et terrible amour pour cet homme. Dans la loge, le chef prend le jeune homme entre quatre yeux et il lui dit « Tu es sensible et tu as un idéal, je sais. ne dis rien. Tu dois travailler, travailler très dur. Tu dois dévouer tout ton temps à ton art. Tu dois te garder pur. Ne laisse pas tes amis te gâter avec des flatteries. Tu dois rendre toute chose grande. Remplir ta mission ne dépend que de toi.
Hate the opera, it's too highbrow, but there's one number I can dig right now. Just like shifting without a clutch, I ride the boogie with the Carmen touch. You ain't living if you have missed the long-haired music with the crew cut twist. Don't love often and don't love much, but love that boogie with the Carmen touch.
Sam a fait construire un cottage pour les vacances à Sharon, une petite station balnéaire près d'un lac où se rassemble une large communauté juive. Ce camp de vacances va devenir un espace de liberté créative pour Lenny. Il y expérimente ses talents futurs. Avec la complicité de sa sœur Shirley et en réquisitionnant les voisins, il met en scène des parodies d'opéra, dont une mémorable production d'une Yiddish Carmen. Ces années 38-39, Lenny semble effectivement s'intéresser beaucoup à la musique de scène.
He fluffed off boogie with the Carmen touch. What brings saucers around from Mars? And why do Mason leave their Mason jars? What makes babies cry out so much? They want their boogie with the Carmen touch. I can't reveal the way.
Dès la rentrée, il compose à la demande des étudiants grecs une musique de 40 minutes pour le groupe de théâtre qui monte Les Oiseaux d'Aristophane. Il doit la diriger. The Birds, construit en petites pièces, est son laboratoire où il fusionne la forme classique avec du blues et même un chœur jazzy, une façon de faire comprendre un texte en grec, affirme-t-il péremptoire. Comme si la composition de The Birds n'était pas suffisante, en 15 jours, il met en scène The Cradle Will Rock de Blitzstein, une pièce musicale des plus engagées de ces années 30 que Lenny a vue à New York, mise en scène par Wells.
Scene 1 is a street corner. It is the night of a big union drive. The mall stands at the lamppost. There is a phone attached to it.
I'm checking home now, call it a night. Going up to my room, turn off the light. Jesus, turn off that light. I ain't in Steeltown long, I work two days a week, the other five my effort days require.
de famille juive émigrée de Russie, Blitzstein, écrit dans le sillage de Kurt Weill, des œuvres lyriques mélangeant chansons et récitatifs se déroulant sur toile de fond de lutte de classe. Leni invite le compositeur à venir voir sa représentation. Blitzstein arrive à Harvard dès le matin et les deux hommes font une longue balade le long de la rivière Charles. Mark Blitzstein raconte à Leni comment il a décidé de devenir compositeur alors qu'il avait la possibilité d'être pianiste.
What? Easy. All right now, get out of here and take a little girl with you. Out there she don't cost you nothing. In jail you're liable to have to feed her.
Why, you goddamn skunk. I'll break you. I'll run you out of town.
And give us front page publicity, would you please?
Kill Lynch!
Yeah, kill Lynch! Listen, once for all you scared bunch of ninnies, outside in the square they're starting something that's going to tear that cat gut out of your sticking racket. That's steel marching out in front. But one day there's going to be wheat and sidewalks, cows and music, shops, houses, homes, bridges, drugstores. The people of this town are growing up. They're finding out what it's all about. And when everybody gets together like Steele's getting together tonight, where are you then? Listen, you Black Legions, you Ku Kluxers, you Mitchell Antis, hiding up there in the cradle of the Liberty Committee. When the storm breaks,
the cradle will fall. Listen. The Boilermakers are with us. That's the Boilermakers' kids.
The Rumpers. The Rollers. Steel. Your Steel. They done it.
They're marching down here. They got no permit to march.
Arrest them.
Arrest them. There's thousands of them. They're standing in front of the courthouse. Right here.
My God, what do they want of me?
Don't worry, that's not for you. That's just my Aunt Jessie and her committee. That thunder, that lightning, that's going to surround you. No wonder those bombers keep a circle around you. When you can't climb down and you can't sit still, that's the storm is going to last until the wind blows.
And when the wind blows,
l'expérience l'inspire d'autant plus qu'il assiste à la création de El Salón Mexico de Copland par le Boston Symphony. Il est si impressionné qu'il écrit à Copland « Je n'arrive toujours pas à dormir tant la battue de l'ouverture trotte dans ma tête. » En tout cas, c'est un sentiment sécurisant de savoir que nous avons un maître en Amérique. Je tiens à vous le dire. Ne faites pas « pfff », je reste ébahi par la précision de votre construction. Dans une autre lettre, Lenny devient plus précis envers Copland. « Je veux sérieusement avoir la chance d'étudier avec vous bientôt. Mon cœur y est. » Ces années d'Harvard, Lenny s'est prouvé qu'il peut tout faire. Pianiste, chef, compositeur, critique, metteur en scène. Mais avant, il doit passer sa thèse de fin d'études. Elle a pour thème l'absorption des origines dans la musique américaine. Lenny contredit Dvorak, qui imagine la musique américaine seulement comme une adaptation classique de thèmes populaires. Pour l'étudiant Bernstein, le problème de la musique américaine ne se résume pas à la seule et vieille question du melting pot. J'essaye de montrer qu'il y a quelque chose d'américain dans la musique la plus nouvelle, qui se base non sur le matériel folklorique, mais sur un esprit natif, qui produit une nouvelle forme musicale américaine. Or, il vient de faire connaissance de ces nouveaux auteurs américains. Il sent bien qu'un mouvement est déjà en route et veut s'y inscrire. Lenny est diplômé le 17 juin 1939 avec des louanges. Mais quand il descend de l'estrade avec sa coiffe en forme de planche à pain à pompons, son père n'a qu'une proposition à lui faire. $100 par semaine s'il intègre l'entreprise familiale. Alors cet été 1939, il file à New York et retrouve ses nouveaux amis, Bowles, Lichtenstein, Copland. Il fait la connaissance du duo Camden and Green, qui n'ont pas encore composé Chantons sous la pluie, mais passent avec lui leur nuit au célèbre club de jazz, le Village Vanguard, où les plus grands jazzmen se produisent.
Je continuais à me battre. Et puis un été, je suis allé à New York pour essayer de trouver un travail, mais en vain. À la fin, je suis rentré chez moi avec $4 en poche. Et en passant, j'ai vu en devanture d'une boutique de prêteurs sur gage une clarinette. Adieu mes $4. Je suis rentré à la maison découragé, mais avec une clarinette.
En septembre, les Allemands envahissent la Pologne. Lenny ne mentionne à rien de l'événement dans ses courriers. Mais entre deux nuits blanches, cet été-là, il commence à travailler sur un chant hébreu, d'après les lamentations de Jérémie. La question que se pose le jeune Lenny reste. Que dois-je faire maintenant? Nous le verrons samedi prochain. Thank you.
C'était A Summer with Lenny, une émission d'Emmanuel Franc. Merci à Éric Lancien qui l'a réalisé, à Françoise Monteil qui m'a aidé à la préparer. Merci à Bernard Loupias pour les traductions et à Laurent Lederer pour la voix de Lenny. À la technique, Jean-Michel Bernot. Je vous souhaite une bonne semaine. À samedi prochain.